Béni soit le Seigneur. Amen. On ouvre ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17 à partir du verset 11 au verset 19. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir à donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Je lisais ce texte hier matin et je me disais combien de fois on pourrait, dans la lecture de différents textes, finalement nous prendre une position et de dire « ben, c'est pas normal. » Non ? On peut dire. Hein. Facilement, on lit un texte, on dit ben, « c'est pas normal qu'ils aient agi comme ça. Il aurait fallu agir autrement, il aurait fallu faire autrement. » Jusqu'au jour où on se trouve, nous, dans une situation et finalement, on fait, nous aussi, comme tout le monde, on passe tout de suite à un autre chapitre de notre vie. Et on se rend compte que, quelque part, nous aussi, peut-être, on n'est pas revenu en arrière. On n'a pas pris la mesure de ce que nous venions de vivre. Et ce soir, j'aimerais avec vous qu'on puisse analyser ce texte un peu mieux et se dire, finalement, pourquoi Jésus est passé dans un endroit où, finalement, 9 sur 10, ils ne sont pas capables d'être reconnaissants. Jésus aurait pu guérir seulement celui qui allait être reconnaissant, hein ? Non ? On pourrait se dire, bah oui, c'est normal. Les autres 9, vu leur manque de reconnaissance, rien. Mais heureusement que Jésus ne fait pas comme ça. Non ? Alors le texte nous dit que Jésus passait pour aller vers Jérusalem et va passer entre la Samarie et la Galilée. Alors en regardant un peu dans les écrits, c'est un chemin qui n'était pas forcément très facile pour les Juifs. Pourquoi ? Parce que les peuples qui habitaient là, ils les voyaient d'une manière un peu étrange. Les Samaritains, déjà, entre les Juifs et les Samaritains, ce n'était pas forcément une bonne entente. Et donc, Jésus passe dans les endroits où on ne l'attend pas forcément. Et dans notre vie aussi, Seigneur passe aussi dans les moments qui peuvent nous sembler les moins propices pour nous. Des territoires qui ne sont pas forcément occupés par des hommes et des femmes de foi, eh bien Jésus passe aussi par là. Et tu pourrais te sentir toi-même et te dire, Seigneur, moi je suis dans un endroit, dans un lieu où je travaille ou dans la famille avec des personnes qui ne sont pas véritablement accrochées à la foi. Seigneur, ça irait mieux si j'avais affaire que à des chrétiens. Non ? Je ne vous vois pas convaincu. En tous les cas, dans ce parcours que Jésus est en train de faire, là, il rencontre des personnes qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté, qui vont faire une prière très courte. Maître, aie pitié de nous. La prière de ces 10 hommes, elle aurait pu être beaucoup plus fournie, non ? Ils auraient pu prier les uns après les autres. Il aurait pu peut-être choisir un qui aurait eu des mots un peu plus intéressants, plus importants. Il aurait pu décrire les choses autrement. Seigneur, vois notre misère. Seigneur, vois nos problèmes. Seigneur, vois nos difficultés. Vois, ça fait X années qu'on n'a pas de vie de famille. Seigneur, regarde à ceci. Seigneur, regarde à cela. Comme si finalement, c'est nos propos et nos discours qui vont nous faire gagner des points devant le Seigneur. Une prière courte. Alors déjà, ça nous donne un indicateur. Ça ne sert à rien de vouloir multiplier les paroles, comme la parole de Dieu le dit. C'est une attitude même qui n'est pas une preuve de foi. Puisque le Seigneur connaît toutes choses, on n'a pas besoin de multiplier les propos, mais être concis. Et là, on voit une prière qui est concise. Maître, aie pitié de nous. Je suis certain que chacun d'entre nous a déjà fait cette prière. Il y a eu certainement des moments difficiles où on ne trouvait pas les mots. Seigneur, aie pitié de nous. Moi, je vous dis sincèrement, il y a eu des occasions où je ne savais pas dire autre chose que Seigneur, aie pitié. Seigneur, fais grâce. Seigneur, use de patience. Non, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses au Seigneur. Il sait que nous sommes avec un caractère très simple à vivre. Il sait que nous sommes très faciles. Non ? Il sait qu'on n'est pas têtu. Il sait toutes ces choses. Moi, je me dis heureusement qu'il sait vraiment qui nous sommes. Parce qu'en sachant qui nous sommes, il peut agir d'une manière juste et précise. Et dans la discussion, on voit que finalement, Jésus ne va pas prendre beaucoup de discours avec eux. Il ne va pas leur faire une leçon sur ce qu'était la loi des Juifs, ce qui étaient les règles, ce qui était... Le Seigneur, il dit, allez, allez vous montrer au sacrificateur. Et le texte nous dit que pendant qu'ils étaient en chemin, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Mais on voit là quelque chose que le Seigneur veut toujours et attend toujours de notre part, c'est un acte de foi. Est-ce que ce soir on est prêt à accomplir un acte de foi ? Peut-être qu'en quittant ce lieu, vous allez vous dire, j'ai prié, mais je n'ai pas obtenu, je n'ai pas eu la réponse, je n'ai pas eu ce que je voulais du Seigneur. Mais Seigneur, tu dis, va. Vas-y, reprends ton chemin. Oui, mais Seigneur, tu me demandes d'aller voir le médecin alors que je ne sais pas si je suis guéri. Avoir un rendez-vous chez le médecin alors que tu ne sais pas que tu es guéri, c'est compliqué, Seigneur. Ils n'avaient pas d'Octolib. Il fallait aller voir le sacrificateur. Le sacrificateur ne pouvait pas laisser rentrer des hommes comme ça dans la ville parce qu'ils étaient touchés de la lèpre. C'est lui qui devait se rendre vers eux et voir si véritablement il y avait des signes d'une guérison. Si vous regardez dans le Lévitique au chapitre 14, versets 2 et 3, moi j'ai pris juste ces deux versets, mais c'est très intéressant de lire tout le texte, puisqu'il nous parle de comment était mis en place finalement ce cursus pour que la personne elle soit considérée pure. Là, c'était juste le début du voyage. Le Seigneur lui dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et nous, dans notre tête, on se dit, ils sont allés, il les a vus, il a dit, allez, vous êtes bons, vous pouvez rentrer à la maison, tout va bien. Mais si vous regardez bien les textes, c'est loin d'être aussi simple que ça. Il dit le texte, voici quelle sera la loi concernant le lépreux. Le jour de sa purification, on l'amènera vers le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp. Si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, alors il fera un sacrifice. Il y aura des sacrifices à devoir faire. Il y aura des jours qui vont passer. Et dans notre démarche, nous, quand on veut un miracle, quand on demande au Seigneur le miracle, on aimerait que tout soit balayé d'un revers de main. Allez, hop, on passe à autre chose. Et là, on voit que finalement, il les envoie vers un parcours qui était nécessaire, qui était bon. Mais en même temps, pour ces hommes, c'était pour eux un retour à la vie, je vais dire la vraie vie. Parce que jusque-là, ils étaient coupés de la relation familiale, coupés de la relation, je dirais tout simple, dans le village. Et même là, ils étaient obligés de crier quelque chose d'horrible. Ils devaient finalement annoncer leur maladie. Aujourd'hui, quand on est malade, on n'a pas envie de le dire. Non ? On n'a pas envie que les autres sachent. Ça ne regarde personne. Et eux, ils étaient obligés de crier « impur, impur ». Ça ne donne pas envie d'aller se balader. Hein. Mais c'était la règle. Ils avaient des habits qui étaient là pour couvrir leur corps, une clochette pour être entendu, pour qu'on sache que là, il y avait des lépreux. Et là, le Seigneur leur dit quelque chose. Allez, allez vous montrer au sacrificateur. Il y avait une question de foi, mais il y avait aussi une question de soumission à la parole de Dieu. Il y avait une règle, et il faut respecter les règles. Et nous, parfois, on veut les miracles, mais on n'est pas prêt de respecter les règles. Parce qu'on se dit ça, c'était pour un autre temps, mais la parole de Dieu est intemporelle. On ne peut pas dire le Seigneur a fait comme ça pour les âmes, mais pour moi il fera différemment, tu comprends hein? Eh, les règles, quand même. Ni règles, ni lois, non. Autant qu'enfant de Dieu, si on considère les choses comme ça, alors vous pouvez toujours courir pour attendre un miracle. Je vais être très clair. Hein. Parce qu'à un certain moment, si je ne suis pas prêt à accepter déjà la parole du Seigneur, mais le Seigneur, est-ce qu'il me dira quelque chose qui est contraire à la pensée de Dieu? Si c'était le cas, ce n'est pas le Seigneur qui m'a parlé. Dieu ne me donnera pas une solution, ne me donnera pas une direction qui va au contraire de la parole de Dieu. Et si elle va dans le sens de la parole de Dieu, bien évidemment, il y a cet acte d'obéissance, de foi. Mais je veux dire, quand on n'a plus rien à perdre, on est prêt à tout faire. Mais la foi est celle qui doit nous amener finalement à nous confronter à la réalité. Et là, ces hommes, ils auraient pu se dire finalement, Jésus m'a dit que je suis purifié, je rentre chez moi. Pas besoin d'aller me montrer, de payer des sacrifices, de devoir régler, de devoir attendre que quelqu'un me dise « tu peux ou tu ne peux pas rentrer chez toi ». Je vais faire comme j'ai envie, parce qu'aujourd'hui on fonctionne comme ça, on fait ce qu'on a envie, quand on a envie, si on a envie. Et là, le Seigneur leur dit « non, non, allez vous montrer au sacrificateur ». Jésus purifie les lépreux pendant le chemin, mais leur chemin de réintégration est loin d'être fini. Bien évidemment, nous, quand on demande au Seigneur un miracle, on aimerait qu'il le fasse hier. Seigneur, si le miracle, je pouvais l'avoir là, et en rentrant à la maison, ah, je passe à autre chose. Il y a des miracles qui se sont réalisés tout de suite. Mais pour autant, il y a eu du travail derrière. Je vous l'ai déjà partagé, mais si vous imaginez juste un instant le simple fait que le Seigneur sauve la vie d'une femme qui devait être lapidée. Vous savez, cette histoire où on vient, on ramène une femme, Jésus est en train d'écrire par terre, on ne sait pas ce qu'il écrit, ce n'est pas grave, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur lui dit à un certain moment, femme, où sont ceux qui t'accusent? Et il dit, ils sont tous partis. Moi, je ne t'accuse pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est magnifique. Hein, et dans notre tête, on se dit, ben, elle est rentrée chez elle. Tout va bien. Sauf que, imaginez le fait que tout le monde sache ce qu'elle a fait. Elle rentre chez elle, elle va devoir faire face à ses responsabilités. Elle va devoir se reconstruire en faisant face à la responsabilité qui est la sienne d'avoir quand même commis quelque chose d'impur, d'injuste, de pas normal. Et donc, elle va devoir vivre avec ça. Bien évidemment, elle a le pardon de Jésus. Bien évidemment, elle a la grâce du Seigneur. Mais elle va devoir faire face au monde. Mon frère, ma sœur, quand tu pries, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, bien évidemment, on aimerait que tout soit réglé et que finalement, tout s'efface. Mais on sera toujours tenu à faire face au monde. Et c'est là que nous devons être des témoins de la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a guéri. Mais cette guérison, qu'est-ce qu'elle va produire en moi? Pour ces hommes, c'était revenir finalement, non plus à vivre d'un système qui était peut-être celui de l'aumône, mais devoir retrouver du travail. Et aujourd'hui, dans le système qui est le nôtre, dans notre monde et surtout dans notre pays, ben, c'est difficile de retrouver du travail. Si on s'est installé dans quelque chose qui fait qu'on n'a pas besoin de travailler, ça tombe tout cuit dans la marmite. Mais être guéri, ça veut dire reprendre finalement là où on s'est arrêté. Moi, j'ai déjà eu le cas de quelqu'un qui est venu pour la prière. Je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? D'être guéri, d'accord. Donc, tu es prêt à reprendre du travail? Il m'a dit, ah non, surtout pas. Et je lui dis, tu veux être guéri ou pas? Ah non. Et il est retourné s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas reprendre du travail. Et bien là, je me dis, Seigneur, mais où on va? Comme ça, tu peux toujours demander, mais tu n'auras rien. Parce que finalement, tu demandes, mais c'est pour la forme. Mais sur le fond, on va continuer, parce que le but, c'est quand même d'avoir du temps de prière. Il nous dit que les disciples partent, et en faisant le chemin, ils sont purifiés. Dieu soit loué. Amen. Quel miracle merveilleux. 10 guérisons d'un coup, d'un seul, une seule phrase, une seule parole, une seule direction, et les 10 sont guéris. Amen. C'est magnifique. Et là, il y en a un seul qui revient sur ses pas. Et là, je me suis dit, Seigneur, combien de fois, moi, je ne suis pas revenu sur mes pas? Parce que peut-être que j'étais déjà parti dans le fait d'avoir la solution. Finalement, je sors de mon problème, Seigneur. Tu vois cette difficulté qui a été là présente, j'en sors de ce problème, Seigneur. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout de ma démarche et après, je viendrai te voir. Est-ce que j'ai bien fait? Je ne suis pas sûr. Je suis même sûr que non. D'ailleurs, le texte nous dit que cet homme, lui, revient en arrière. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20 dit « Car vous avez été rachetés à grand prix. » Amen. Vous avez coûté cher. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à glorifier Dieu avant de courir au résultat qu'on voulait de la part de Dieu? Est-ce que ce soir, est-ce que je regarde à l'objectif ou est-ce que je regarde à Christ? Parce que je peux regarder à Christ pour le miracle, mais après avec un œil qui part dans l'autre sens pour regarder l'objectif, quand est-ce que je vais l'atteindre? Et si le véritable objectif pour nous, c'était finalement de passer le test et de dire finalement, moi, je veux revenir au Seigneur, quoi qu'il m'en coûte. Revenir en arrière, ça veut dire que le temps de la purification et tout le reste aurait pris du retard pour cette personne. Mais c'est pas grave, qu'est-ce qui est l'essentiel dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans ton cœur? Est-ce que le fait de rendre gloire à Dieu et le fait finalement de revenir au Seigneur? Combien de fois Dieu a répondu à nos prières, à nos supplications? Et quelle a été notre priorité? Peut-être récupérer notre place au sein des nôtres? Récupérer notre place au sein de la société, récupérer notre statut social ou notre position d'homme, qu'avons-nous fait? Le texte nous dit que cet homme tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. Et les paroles d'après de Jésus elles peuvent nous sembler dures, hein, parce que le Seigneur, finalement, il dit quelque chose de terrible. Le Seigneur, il va dire, est-ce qu'il n'y avait qu'un Samaritain pour pouvoir venir rendre gloire à Dieu? Le psaume 29, verset 1 et 2 dit ceci, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et puissance, rendez à l'Éternel la gloire de son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Le Seigneur attend de nous ce soir aussi que nous soyons capables de nous prosterner devant lui. Pas seulement pour lui dire « Seigneur, aie pitié de nous ». Combien de choses Dieu a déjà accomplies dans votre vie? Une ou deux? Moi, je me suis posé la question « Combien de fois t'es revenu en arrière ?» Que chacun réponde pour soi. Je ne vais pas vous donner ma réponse. Hein. Combien de fois on a pris vraiment ce truc de dire « Seigneur, moi je ne veux pas aller plus loin tant que je ne t'ai pas rendu la gloire qui te revient. » Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est ce qui rapporte le plus. Parce que si vous regardez bien le texte, Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils ?» Et je me dis combien de fois le Seigneur doit se dire « Mais où sont ? Où ils sont ?» Ils sont venus à une réunion de prière, ils ont obtenu ce qu'ils avaient besoin. Et où ils sont maintenant? Seigneur, j'ai plus de problème. Le problème, c'est les autres. Seigneur, voilà. Bénis-les, Seigneur. Ils sont à la réunion, bénis-les, Seigneur. C'est moi, je suis occupé ce soir. Mais si j'étais revenu, j'aurais pu rendre gloire à Dieu. Et mon témoignage aurait certainement encouragé peut-être quelqu'un d'autre. Non? Alors le but, ce n'est pas de culpabiliser ceux qui sont là, vous êtes là. Amen. Gloire à Dieu. Et le but, ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit. Mais juste que dans notre réflexion, nous puissions nous dire, Seigneur, j'ai cette possibilité d'élever ma voix vers toi pour te demander, mais je dois avoir aussi cette capacité d'élever ma voix pour te donner. Donner à Dieu ce qui lui revient. Qui a déjà vécu la grâce de Dieu? Levez la main. Hein? Tout le monde? Oui? Donc tout le monde va prier ce soir. Regardez la récompense de celui qui est revenu. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Double miracle. Alors, tu veux un miracle ou t'en veux deux? Alors là, si tu reviens une troisième, je peux te dire, là, t'as le gros lot. Hein. Pourquoi? Parce que je crois dans le fait que celui qui revient au Seigneur constamment, il ne manquera jamais de rien. Et la preuve, je vous ai posé la question, combien de miracles le Seigneur vous a déjà accordé? Pourquoi? Parce que vous êtes revenu au Seigneur. Alors que nos cœurs soient capables de revenir au Seigneur, pas seulement pour demander, parce que ça c'est facile, tout le monde sait faire. Vous croisez des gens dans la rue qui demandent, celui qui est dans la difficulté il demande, celui qui est dans l'épreuve il demande, vous allez à l'hôpital, tout le monde demande. Mais combien ils reçoivent? Pour ces 10 hommes, leur vie était finie. Pour ces 10 hommes, leur vie était terminée en lambeaux parce qu'ils allaient perdre une partie de leur corps à chaque fois. La lèpre, c'est une maladie horrible. Leur personnalité était complètement détruite. Mais le Seigneur leur a redonné. Et je voudrais te dire, quoi que la maladie ou la vie a pu t'enlever, le Seigneur peut te donner au-delà. D'ailleurs, cet homme, pas seulement il sera guéri, mais il sera sauvé. Alors que le Seigneur puisse encore ce soir nous donner une parole, une direction. Et si nous sommes obéissants, si nous sommes de ceux qui entendent la parole du Seigneur et qui agissent en conséquence, attendons-nous à recevoir, mais soyons aussi capables de venir redonner au Seigneur ce qui lui revient. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, encore ce soir pour ta parole. Merci, Seigneur, encore. Pour, Seigneur, cet exemple qui nous est donné, Seigneur, nous ne voulons pas être comme des religieux qui partent, nous ne voulons pas, Seigneur, se dire nous sommes le peuple de Dieu et après, finalement, face à nos besoins, courir derrière nos besoins et oublier qui est celui qui répond à nos besoins. Amen. Seigneur, donne-nous d'être capables, attentifs, sages, et savoir revenir à tes pieds, Seigneur, et oui, nous prosterner devant toi. Parce qu'en aucun cas, Seigneur, c'était un dû. Mais c'est par grâce. Et encore ce soir, Seigneur, je veux te dire merci pour toutes les fois où tu as fait preuve de grâce. Alors que nos prières étaient les plus courtes de ce monde. Aie pitié de nous. Merci d'avoir répondu à nos prières. Et encore ce soir, je veux te dire merci pour toutes les prières auxquelles tu vas répondre, Seigneur. Parce que tu ne changes pas. Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, de guérir tous ceux et celles qui sont malades, Seigneur. Seigneur, quelle qu'il soit la maladie, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur les difficultés qui peuvent être vécues dans les familles, dans les couples. Étends ta main, Seigneur, sur nos ados, Seigneur. Tu vois, parfois, la période, le caractère, Seigneur, n'est pas facile. On n'arrive pas à trouver les bons réglages, on n'arrive pas à trouver les mots, Seigneur, pour gérer cette période. Donne-nous sagesse, donne-nous discernement. Seigneur, nous te prions pour les familles que nous représentons là ce soir. Mais aussi pour les membres de nos familles qui encore ne te connaissent pas ou qui refusent de te connaître. Que nous puissions être, Seigneur, un témoignage vivant. Seigneur, qui puisse nous voir, oui, à genoux devant toi. Seigneur, quel honneur d'être à genoux devant toi. Quel bonheur, Seigneur, d'entendre encore une fois ta voix nous parler. Seigneur, je ne veux pas me contenter d'une fois ou de deux fois. Seigneur, je veux entendre ta voix constamment, Seigneur. Et sois glorifié, Seigneur, parce que toi seul es digne de louange, de gloire et d'honneur. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.